VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En RDC, de nouvelles libérations politiques. Les autorités congolaises annoncent que 5 militants pro-démocratie en détention à Kinshasa depuis plusieurs mois seront remis en liberté. Cette annonce intervient une semaine après celle de la libération de 24 prisonniers politiques et d'opinion. Bagal Sikora.
Selon le gouvernement, il s'agit de décrisper le climat politique qui est très tendu dans un pays au calendrier électoral incertain. Le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a expliqué à la presse avoir écrit au procureur général de la République pour procéder aux formalités en vue de libérer 4 activistes de Lucha. Il s'agit de Bienvenu Matumo, Victor Tessongo, héritier et capitaine Godefroy Mwana Boato, ainsi qu'un activiste du mouvement Filimbi, Jean de Dieu Kilima. Les 5 hommes vont devoir quitter la prison de Makala dans les 2 ou 3 jours, a précisé le ministre. La Lucha, lutte pour le changement, est un mouvement congolais de jeunes indiens basé à Goma dans la province du Nord Kivu. Le mouvement Filimbi, coup de sifflet en Swahili, se présente quant à lui comme un collectif de mouvements d'éducation à la citoyenneté. Le 19 août, le gouvernement avait déjà annoncé la libération de 24 prisonniers, dont Fred Boma de Lucha et Yves Makwambala de Filimbi, qui étaient poursuivis par la justice congolaise pour complot contre le président Kabila. Les 2 hommes sont encore en détention.
Présidentielle de demain au Gabon à la veille du scrutin, l'ONU exhorte aujourd'hui les Gabonais à voter dans le calme et sans violence. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle tous les Gabonais à exercer leur devoir civique de façon responsable et recommande la tenue d'élections pacifiques et crédibles. M. Ban demande à tous les acteurs politiques, en particulier les candidats, de faire preuve de retenue, de s'abstenir de toute incitation à la violence ou propos incendiaires et de maintenir une atmosphère paisible avant, pendant et après le scrutin de samedi. Les Gabonais élisent demain leur président dans un scrutin mettant aux prises 11 candidats, dont les 2 favoris, le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. À la veille du scrutin, les camps de ces 2 principaux candidats s'accusent mutuellement d'organiser le rachat de cartes d'électeurs pour essayer de tricher. Par ailleurs, beaucoup de Gabonais hier se sont pressés vers les gares routières pour quitter la capitale afin d'aller voter dans leur région d'origine. Notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall, est allé à leur rencontre.
À la gare de PK9, quartier populaire de Libreville, beaucoup de Gabonais se pressent pour prendre le bus pour aller à l'intérieur du pays. Certains par crainte de violence et d'autres pour simplement aller accomplir leur devoir citoyen dans leur localité d'origine.
Moi, c'est Mambela Bulondo Mindonga Malik. Je quitte Libreville parce que je dois aller voter. Je me suis fait inscrire à l'intérieur du pays, plus précisément à Libamba. Et je dois m'y rendre pour accomplir mon devoir de citoyen.
Est-ce que vous craignez qu'il y ait des violences à la proclamation des résultats?
Non, je ne crains rien parce que je sais que nous allons gagner. C'est vrai que j'ai un penchant pour un candidat. Et si nous en tenions à ce que le président Sorta disait sur les antennes de Vox Africa, il disait que s'il est battu, il va reconnaître sa victoire. Mais je sais qu'il sera battu, donc du coup, il n'y aura pas de violence et il va l'accepter.
Et vous pensez qui sera le vainqueur?
Monsieur Ping sera le vainqueur, je suis sûr. Monsieur Ping sera le futur président du Gabon.
Dans le camp adverse, c'est la même assurance. Les partisans d'Ali Bongo sont aussi certains de la victoire de leur porte-drapeau, Serge Miyaku.
Sûr et certain. C'est le meilleur et c'est le seul qui est sur le terrain pour mieux faire. C'est le seul que les Gabonais ont choisi et il va gagner.
Et pourquoi Ali Bongo alors?
Ali Bongo, comme je vous ai dit, c'est celui qui a le meilleur projet de société. Il a parlé de l'avenir en confiance. Alors donc on lui fait confiance et c'est tout.
Vous ne craignez pas des violences après publication des résultats?
Loin de là. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours ça. Les Gabonais sont fiers de choisir leur leader. Et après, tout le monde va s'asseoir et il n'y aura rien. Rien de grave va se passer.
Crainte de violence, oui. Mais ce n'est pas le souhait d'une bonne partie des Gabonais. Alain Matoka, rencontré à la gare de PK9.
Les gens sont souvent optimistes. Si le candidat auquel ils soutenaient a perdu, cela le révolte à faire du tapage. Mais s'il est conscient que le meilleur a gagné, il n'y aurait jamais de violence.
Et qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour le scrutin?
Je souhaite que le scrutin se passe dans la bonne manière.
Et comme la religion est très présente dans la vie des Gabonais, il y a aussi ceux qui s'en remettent à Dieu.
Moi, je m'appelle Kivi. Moi, je ne crains rien. J'ai confiance à Dieu. La Bible déclare que nul ne décide de personne. Seul Dieu a le dernier mot, c'est lui qui décide.
Est-ce que vous comptez quitter Libreville?
Oui, en ce moment, là, j'attends le véhicule pour le sud, plus précisément à Libamba.
Et vous allez voter pour qui?
Oh, c'est un candidat, c'est quelque chose de personnel.
Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'ONU a dénoncé dans un communiqué la négation du génocide rwandais de 1994 par un haut responsable politique burundais. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi, Pascal Nyabemba, a déclaré le 16 août que le génocide au Rwanda de 1994 est un montage génocidaire contre le gouvernement Hutu de Kigali, donc une fabrication de la communauté internationale. Le conseil spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide, Adama Dieng, appelle à l'apaisement.
Aujourd'hui, on assiste à des attaques, à des accusations, des contre-accusations entre Kigali et Bujumbura. Ne l'oublions pas, vous avez dans ces deux pays des communautés qui appartiennent au même groupe. Faisons en sorte tout simplement que demain, tout ce monde puisse vivre dans la paix. Enough is enough. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Parce que les populations souffrent. Ce sont avant tout les femmes, les enfants, bon sang. Parce qu'au fond, ce discours n'est qu'un discours négationniste du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda et au cours duquel des Hutus et des Tuas qui étaient opposés à ce génocide ont également été tués. Méfions-nous parce qu'une étincelle pourrait provoquer justement un incendie cette région des Grands Lacs.
Adama Dieng à New York. Au Zimbabwe, la police anti-émeute a brutalement réprimé ce vendredi une manifestation de l'opposition à Harare. Rassemblement de plus qui symbolise le ras-le-bol grandissant contre le régime du président Robert Mugabe et John Lyndon.
La manifestation qui a pourtant été autorisée par la justice vendredi matin était organisée par 18 partis d'opposition menée par des leaders comme Morgan Tsvangirai ou Joyce Mujuru, ex-vice-présidente, désormais à la tête du Parti populaire zimbabwéen. Tous réclament une réforme électorale en vue des élections générales de 2018. Robert Mugabe, 92 ans, y est candidat à sa propre succession. Alors qu'il commençait à peine à se rassembler, les manifestants ont été surpris par des grenades lacrymogènes lancées par la police. Cette dernière a aussi utilisé des canons à eau, allant même jusqu'à frapper certains manifestants à coups de matraque et menacer les journalistes qui couvraient l'événement. Les protestataires ont alors répliqué en lançant des pierres sur les forces de l'ordre et en mettant le feu à des pneus. Un panneau d'une rue portant le nom du président Mugabe a été détruit. L'opposition attendait près de 150 000 personnes, mais la manifestation a été loin de rassembler autant de monde. Plusieurs ambassades ont appelé les autorités à respecter les droits de l'homme et les libertés. Les rues d'Harare, habituellement très animées, étaient vides ce vendredi.
Conflit en Syrie maintenant, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov se sont réunis aujourd'hui à Genève pour tenter de relancer les pourparlers de paix sur la Syrie. Était présent également à cette réunion l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Salwa Jafari.
Les discussions sont excellentes, a déclaré Sergueï Lavrov à l'occasion d'une pause dans cette rencontre sur les rives du lac Léman. Les deux chefs de la diplomatie n'ont pas voulu faire de commentaires avant la réunion. Devant les caméras, ils se sont tout de même donné une poignée de main cordiale. Moscou et Washington ont déclaré le groupe État islamique comme ennemi commun, mais la Russie soutient politiquement et militairement le régime de Damas, tandis que les États-Unis appuient l'opposition syrienne qui réclame le départ du président Bachar el-Assad. Plusieurs sessions de discussions intersyriennes destinées à mettre fin à ce conflit qui a fait plus de 290 morts depuis 5 ans ont eu lieu à Genève depuis le début de l'année, sans aboutir à des résultats. La réunion de vendredi intervient dans un contexte tendu, alors que le conflit est devenu encore plus complexe avec l'intervention militaire de la Turquie dans le nord de la Syrie contre les djihadistes du groupe État islamique, mais également contre les Kurdes.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.